Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la nuit. Et nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
À partir de samedi, en territoire dit en alerte maximale, Guadeloupe et la métropole d'Aix-Marseille. Fermeture totale des bars et des restaurants.
Les Marseillais en ont avalé leur pastis de travers. Bars et restaurants de la cité phocéenne vont devoir baisser le rideau. Une punition dénonce les élus locaux. Une mise à mort s'indigne les restaurateurs. Mesures renforcées également dans 11 autres agglomérations, dont Paris, Lille et Montpellier. Tous les détails dès le début de ce journal. Le décès d'une figure emblématique de la chanson française, Juliette Gréco, nous a quittés aujourd'hui. Nous lui rendrons hommage. Dans ce journal également, l'inquiétude des PME après l'annonce du doublement du congé paternité. Une nouvelle politique d'accueil des migrants au sein de l'Union européenne, plus solidaire mais aussi plus ferme. Et puis nous irons à Washington où est exposée à la Cour suprême la dépouille de la juge Ruth Bader Ginsburg. Le temps de demain, il sera automnal, nuages et température en baisse, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris clôture ce soir en très légère hausse, plus 0,62% à 4802 points. Les détails à venir avec Didier Hamot de boursier.com. L'interview Echo, 22h20, le financement participatif est-il un remède anti-crise? La question que posera Emmanuel Duteil à Arnaud Burgot, directeur général d'Ulule, plateforme de financement participatif. Enfin, on découvrira ensemble, en direct, les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le tour de vis est spectaculaire. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a dévoilé ce soir de nouvelles mesures restrictives, mesures choc pour endiguer la propagation de l'épidémie. Et clairement, le ton a changé. Fini la simple pédagogie, on revient à des restrictions beaucoup plus sévères. Anne Le Gall, vous avez suivi attentivement cette conférence de presse. Il faut en fait distinguer trois catégories de territoires, trois situations d'alerte différentes avec pour chacune des mesures spécifiques.
Voilà, pour faire simple, on avait jusqu'ici les zones rouges et les zones vertes. Et maintenant, on a trois nuances de rouge dans les zones en alerte. Ce n'est plus seulement le taux d'incidence supérieur à 50 cas pour 100 000 qui compte. Il y a aussi la vitesse de circulation du virus parmi les personnes âgées et les capacités d'accueil en réanimation qui entrent en compte. Plus ces critères sont inquiétants et plus le rouge devient foncé. On a donc ce soir deux zones en rouge très foncées, ce qu'on appelle la zone d'alerte maximale. C'est la métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe, a indiqué le ministre de la Santé. Dans ces zones, de nouvelles règles vont s'appliquer dès samedi.
Il s'agit tout d'abord de la fermeture totale des bars et des restaurants, de la fermeture de l'ensemble des établissements recevant du public, sauf s'il existe un protocole sanitaire strict déjà mis en place. À ce titre, les lieux culturels comme les théâtres, les musées, les cinémas ne sont donc pas concernés par les mesures de fermeture. Et par ailleurs, nous incitons au maximum au télétravail pour l'ensemble des activités pour lesquelles c'est possible dans ces territoires.
Fermeture totale des bars donc à Marseille et en Guadeloupe. Et juste en dessous, Anne, on trouve les zones dites d'alerte renforcée. Et ça concerne désormais beaucoup de villes.
Voilà, zone d'alerte renforcée, c'est le rouge vif, le rouge intermédiaire. Dans ces zones, on a une circulation active du virus parmi les personnes âgées. 11 métropoles sont concernées, Paris, Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, plus Bordeaux, Lyon et Nice qui s'y trouvaient déjà. Dans ces villes, en accord avec les préfets qui préciseront localement les consignes, les rassemblements seront désormais limités à 1000 personnes contre 5000 auparavant. Les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public sont interdits. Les bars devront fermer au plus tard à 22h. Dès lundi, les salles de sport, les gymnases, les salles des fêtes seront aussi fermées et le télétravail devrait être favorisé autant que possible.
Alors Anne, d'autres régions n'en sont pas encore là, mais sont tout de même sous surveillance.
Voilà, aujourd'hui, 7 départements sur 10 sont en rouge sur la carte de France, quelle que soit la nuance de rouge. Dans ces 69 départements en zone d'alerte, les fêtes, mariages, tombolas, anniversaires, communions devront se tenir en petit comité à moins de 30 personnes. Et partout, il est encore temps d'agir en portant un masque et en limitant sa bulle sociale, a indiqué Olivier Véran. De manière générale, a précisé le ministre, il ne faut pas multiplier les dîners et éviter de sortir plusieurs fois par semaine avec des personnes différentes.
Merci Anne Le Gall pour toutes ces précisions. À Marseille, l'annonce de la fermeture totale des bars et restaurants passe très mal auprès des élus. Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qualifie la mesure de punition collective et dénonce une décision prise de façon unilatérale. La maire de Marseille se dit, elle, en colère. Colère également des premiers intéressés. Jacques est le patron d'un bar-restaurant à Marseille.
On le prend comme on doit le prendre. C'est justice à deux vitesses. Parce que finalement, on ferme les bars et les restaurants parce que le virus ne circule pas dans les centres commerciaux, effectivement. Dans les salons de coiffure, dans les centres commerciaux. Ça, il ne circule pas, le virus. Il est interdit d'accès. Il rentre que dans les bars et que dans les restaurants, en fait. On s'est dit, ben, pendant l'été, tiens, il va y avoir les touristes, on les a laissés venir. Forcément, l'infection, elle vient de là. Non seulement ils se trompent de cible, mais en plus, moi, j'aimerais voir si M. Olivier Véran ou Macron, ils ne vont pas manger au restaurant à Paris. Pourquoi ils ne ferment pas les restaurants à Paris? Pourquoi on est juste à Marseille? Parce que nous, on est en écarlate. Par contre, à Paris, ils ne sont pas en écarlate. Donc forcément, c'est une justice encore à deux vitesses. C'est toujours la même chose. Il y a des employés, il y a des gens, malheureusement, qui vont repartir encore en chômage partiel. Je peux tenir la distance, mais des petites affaires, des restaurants qui viennent d'ouvrir, des bars qui n'ont pas nécessairement la capacité à pouvoir rebondir, ils vont fermer. Ça amène à la fin d'un commerce.
Le patron d'un bar-restaurant de Marseille au micro Europe 1 de Stéphane Frangy. Les chiffres ce soir de l'épidémie sont sans surprise mauvais. 13 072 nouveaux cas de Covid ont été recensés ces dernières 24 heures. C'est 3000 de plus qu'hier. La part de malades parmi les personnes testées continue de grimper à 6,2% contre 6,1% la veille.
Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Elle était une figure emblématique de la chanson française. Juliette Gréco est décédée aujourd'hui à l'âge de 93 ans, entourée des siens dans sa maison de Ramatuelle. Elle rejoint le panthéon de la chanson française, a salué ce soir Emmanuel Macron. Juliette Gréco, la muse du Saint-Germain-des-Prés d'après-guerre, s'en est allée après 70 ans de carrière riche, Angèle Châtelier.
Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux, chante Juliette Gréco en 1951.
Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux.
Un Paris qu'elle aura éclairé toute sa vie. La fin de la Seconde Guerre mondiale, loin de l'ivresse insouciante de la libération, une petite orpheline de 15 ans sur les pavés de l'avenue Foch, Juliette Gréco, toute seule, sa mère et sa sœur résistantes ont été déportées. Elle sera accueillie par son ancienne professeure de français qui habite rive gauche, à quelques pas d'un Saint-Germain-des-Prés libéré. Saint-Germain qui deviendra son univers, sa scène, son trône. Elle y rencontrera Boris Vian et Jean-Paul Sartre, qui lui offrira sa première chanson.
C'est qu'il avait du boulot, trop qui coupe des généraux.
La petite Juliette Gréco devient la grande Juliette Gréco. L'élégance, la poésie, la volupté, l'intelligentsia parisienne, la liberté. Et puis l'amante de Miles Davis, l'épouse du pianiste Gérard Jouannet pendant 30 ans, puis son interprète. Elle confiait sur Europe 1 en 2009, ce qu'était être au service d'un texte.
C'est essayer de rendre intelligibles des choses qui ne sont pas toujours. Essayer de magnifier les mots. Essayer de servir au maximum celui ou celle qui a écrit.
Il y a eu les mots de Robert Niel, deux mots, déshabillez-moi.
Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu.
Il y a eu ceux de Gainsbourg, de Jacques Brel, plus récemment de Miossec ou de Benjamin Biolay. À Europe 1, elle disait aussi, si la vie n'est pas un combat, si la vie n'est pas un désir, ça sert à quoi? Juliette Gréco, pour qui la vie était aussi la scène qu'elle arpentait pour la dernière fois au Théâtre de l'Étang à Saint-Estève en 2016, et toujours avec poésie parée de sa robe noire.
Merci Angèle Châtelier pour ce bel hommage. Autre disparition aujourd'hui, la mort du légendaire chef Pierre Troisgros. Il avait 92 ans, entré en apprentissage dans le restaurant familial à Roanne, dans la Loire. Pierre Troisgros était ensuite parti au Crillon, puis au Lucas Carton à Paris. Et c'est là qu'il avait rencontré son grand ami Paul Bocuse, décédé il y a 2 ans. Aux côtés de son frère Jean-Pierre Troisgros avait fondé la maison Troisgros, triplement étoilée depuis plus d'un demi-siècle. C'est désormais officiel, les futurs papas auront donc le droit de rester auprès de leur bébé 28 jours contre 14 aujourd'hui. La mesure entrera en vigueur en juillet prochain, dans 9 mois donc, la date n'a pas été choisie par hasard. Autre nouveauté, ce congé paternité comportera une part obligatoire, 7 jours incompressibles. La garantie que tous les pères prendront ce congé, quelle que soit leur situation professionnelle, a déclaré Emmanuel Macron cet après-midi. Et des arguments que comprend François Asselin, le président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Il émet toutefois une inquiétude au micro d'Olivier Samin.
Nous ne sommes absolument pas opposés au fait de pouvoir élargir les congés parentaux, mais attention, dans la petite entreprise, eh bien, il y a des problèmes d'organisation tout à fait concrets qui seront sans solution. lorsque vous êtes artisan boulanger, par exemple, que vous avez un seul salarié, que s'il vous quitte pendant 28 jours, que vous ne pourrez pas le remplacer, eh bien, vous n'avez pas de solution, sinon que d'essayer tant bien que mal de compenser, vous, l'indépendant, le boulanger, pour faire en sorte que vous puissiez continuer à faire tourner votre commerce. Lorsque vous êtes restaurateur, que votre chef de cuisine part pendant 28 jours, comment faites-vous ?
Pour Hélène Périvier, en revanche, économiste à l'OFCE, les patrons n'ont pas de raison d'avoir de telles inquiétudes.
C'est de toute façon une bonne chose, ça va dans le bon sens. L'allongement du congé paternité ou du congé second parent, c'est un droit social supplémentaire qui était étendu. C'est un progrès très intéressant. Et le remplacement, évidemment, on n'est pas là pendant un mois. Bon, c'est vrai du congé maternité. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, tout ça se prévoit en amont. Hein. Quand on va avoir un enfant, le plus souvent, on l'anticipe plusieurs mois avant. Donc, en termes d'organisation du travail, je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées assez facilement. Personne n'est irremplaçable pendant un mois.
Voilà. Hélène Périvier, économiste à l'OFCE, avec Ève Roger pour Europe 1. Le ton monte d'un cran entre Veolia et Suez. Les directions des deux groupes ont été auditionnées aujourd'hui à l'Assemblée nationale et chacune campe sur ses positions. Suez qui refuse la fusion demande du temps pour réagir. Quant à Veolia, ses dirigeants maintiennent leurs intentions de racheter à Engie les parts qu'elle détient dans l'entreprise de gestion des eaux et des déchets. Invitée ce soir de Julien Bugier à 18h20, la directrice générale adjointe de Veolia a assuré qu'il n'y aura aucune suppression d'emplois. À Perpignan, Louis Alliot annonce la mise en place d'un permis de louer pour lutter contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil. La mesure sera effective dans les 6 mois et ne concernera que les primo-bailleurs, explique le maire Rassemblement National. La série macabre continue. Une jument mutilée et tuée a été découverte dans un petit village de la Sarthe. L'animal aurait notamment été partiellement brûlé. Une enquête a été ouverte, une de plus. On en compte plus de 150 partout dans le pays.
Europe Soir, Julien Pierce.
Il aura fallu que le camp de Moria s'embrase, que des milliers de migrants errent sur les routes de Lesbos pour que l'Union européenne se décide enfin à revoir ses règles migratoires. Restait à trouver un compromis entre les États membres profondément divisés sur la question, compromis entre contrôle et solidarité. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. La Commission européenne a donc présenté son nouveau pacte migratoire qui tient compte des rapports de force en Europe avec un accent mis toutefois sur la fermeté.
Oui, officiellement ici, les mots d'ordre sont solidarité et responsabilité, mais c'est clair que cette réforme de l'asile reflète avant tout la sensibilité des opinions publiques sur l'immigration et les nombreuses résistances sur le continent, ce que dénoncent d'ailleurs déjà les ONG. Exemple, avec le nouveau mécanisme de solidarité, fini hein, les quotas obligatoires de migrants dans chaque pays, les pays de l'Est n'en voulaient pas, le vice-président de la Commission, Margaritis Kinas, en a tenu compte.
Nous avons cherché une solution entre les lignes rouges des uns et des autres. Et cela passe par un nouveau concept que nous avons baptisé « parrainage des retours ».
Voilà, les pays qui ne voudront pas de réfugiés pourront, à la place, prendre en charge les expulsions de ceux dont la demande est rejetée. À l'arrivée aussi, l'accueil devra être plus encadré. Tous les migrants seront enregistrés sous 5 jours. Ceux dont la demande paraît douteuse devront rester enfermés pour éviter qu'ils ne s'enfuient. Au bout de 3 mois maximum, ils seront fixés et si nécessaire, renvoyés chez eux, explique la commissaire aux affaires intérieures Ylva Johansson.
Cela va créer une situation dans laquelle ceux qui savent qu'ils n'auront pas le droit d'asile réfléchiront à 2 fois et même plus avant d'entrer illégalement en Europe. C'est clairement notre objectif.
Ces textes vont maintenant être décortiqués par les 27 États membres. Arriveront-ils à s'accorder après 5 ans de discorde ? Ça sera l'enjeu des prochains mois.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Et signe que la discorde continue, la France demande ce soir à l'Italie d'accueillir le navire humanitaire Alan Kurdi, avec à son bord quelques 130 migrants secourus samedi en Méditerranée. Un peu plus tôt, la mairie de Marseille s'était dit prête à l'accueillir. À 6000 km de là, à Washington, les États-Unis rendent hommage à la juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg. La magistrate, icône féministe et progressiste, est décédée vendredi à 87 ans. Sa dépouille est depuis cet après-midi exposée à la Cour suprême. Xavier Yvon.
Oui, le cercueil de Ruth Bader Ginsburg, recouvert du drapeau américain, trône en haut du grand escalier, encadré par les immenses colonnes blanches de la Cour suprême où elle a servi pendant 27 ans. Une mise en scène très solennelle, à la hauteur du traumatisme provoqué par sa mort, explique Catherine McGregor, une américaine francophone originaire de l'Idaho.
C'est triste. Enfin, moi, j'habitais ici quand Kennedy est mort, en 62. Alors, ça fait un peu le même effet. C'est quelque chose d'énorme, une tristesse. C'était quelqu'un de bien que le pays a perdu.
La foule défile lentement au pied des marches. On marque une pause devant le cercueil. Certains ont apporté des fleurs, des panneaux remerciant la magistrate, icône des progressistes. Certains sont même venus de très loin, comme Kate, arrivée hier de Caroline du Sud. 6h30 de route, mais chaque minute valait le coup, dit-elle. Kate se dit à la fois triste et aussi inspirée. Les droits des femmes sont toujours attaqués dans ce pays. Rose a commencé le combat, c'est à nous de le continuer, explique-t-elle, arborant son t-shirt avec le visage de la juge surmonté d'une couronne. Dans la file d'attente, c'est son remplacement probable par une juge ultra-conservatrice qui nourrit les conversations. Une mère s'inquiète pour l'avenir de sa fillette de 3 ans, déguisée en RBG avec une petite robe noire, un col en dentelle blanche. Et qui répète, je suis Ruth Bader Ginsburg.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. La sanction est tombée pour André Di Maria, le joueur du PSG est suspendu 4 matchs pour avoir craché sur un joueur de Marseille, le défenseur Alvaro González. L'Espagnol est aussi sous le coup d'une enquête. Il aurait proféré des insultes racistes à l'encontre de Neymar. La Ligue professionnelle de football se prononcera sur ce dossier le 30 septembre. La météo de demain, Anissa Haddadi, le temps va changer.
Oui, avec en effet, Julien, demain un vrai temps d'automne sur le quart sud-est du pays, du Pays Basque jusqu'à l'Auvergne. La journée va commencer avec des averses, parfois même des orages. Dans la vallée du Rhône aussi, le temps est à l'orage. Partout ailleurs, c'est gris avec des petites averses. Et puis sur le nord-ouest, le vent souffle, il souffle assez fort sur la Bretagne et le Cotentin. Dans l'après-midi, les averses vont toucher presque tout le pays. Allez, les trois quarts de la France sont concernés par le port du parapluie avec de nombreux orages. Et puis dans le nord-ouest, le vent se renforce avec des rafales jusqu'à 100 km/h. Les températures, elles baissent demain, surtout l'après-midi, avec seulement 13 degrés à Saint-Brieuc, 14 à Brest, 17 à Lille et Paris, 19 à Annecy et Poitiers, 20 à Limoges, 21 à Dijon et Belfort, c'est frais, 23 à Strasbourg, 24 à Nîmes, 25 à Nice. Demain matin, nous aurons 9 à 18 degrés.
Merci Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com, suivi de l'interview Echo. Le financement participatif est-il un remède anti-crise? C'est la question que posera Emmanuel Duteil à Arnaud Burgot, directeur général d'Ulule, une plateforme de financement participatif. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec vous, Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street retombe déjà après son sursaut d'hier.
Oui, ça rechute déjà effectivement après le rebond qui n'était pas très costaud. Le Dow Jones repère 1,92%. 26 763 points et surtout le Nasdaq, donc les valeurs de technologie, recule de 3%, un peu plus, même moins 3,02%, 10 633 points. Le marché reste toujours aussi nerveux à l'écoute de la situation sanitaire internationale. Symbole du marché aujourd'hui, c'est Tesla qui rechute lourdement de 10%, 380 dollars après les annonces de la nuit dernière d'Elon Musk, le patron de Tesla, qui ont laissé les opérateurs sur leur faim concernant les futures batteries plus puissante, moins chère, mais ce n'est pas pour tout de suite et évidemment ça pèse sur la tendance. On a aussi de la casse du côté d'Apple, moins 4,2%, Amazon, moins 4,1%, Microsoft, moins 3,3%, Facebook, moins 2,5% et IBM, moins 1,4%. Il y a quand même une satisfaction, c'est Nike en hausse de 10%,
ah oui.
127 dollars. Oui, ça flambe. Nike a fait part d'un bénéfice en hausse à 1,5 milliard de dollars au premier trimestre, une progression de 11% malgré la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires est resté solide, 10,6 milliards de dollars avec une forte demande chinoise. Le pétrole retombe sous les 40 dollars, le WTI est à 39,80 et puis l'euro glisse encore 1,1660 face au dollar.
Retour en France où la bourse de Paris a terminé en légère hausse ce soir mais sans convaincre.
Pas vraiment, ouais, pas vraiment convaincu, cette hausse est très timide, plus 0,6%, plus 0,62%, 4802 points après 4 séances de baisse consécutives et 6% de perdu. Un sursaut limité dans un marché toujours très préoccupé par la situation sanitaire, évidemment. Le rebond n'est pas très convaincant malgré quelques valeurs en vue quand même. Alten, plus 9,5% après des comptes semestriels meilleurs que prévu. Somfy remonte de 4% avec Plastic Omnium. D'ailleurs, le secteur automobile se reprend un petit peu quand même. On a Valeo, plus 2,5%, Peugeot, plus 1,7% et Renault, plus 3,4%, 22,16 €.
En revanche, le secteur pétrolier, lui, reste en berne.
Oui, quand ça ça veut pas. Hein. Le pétrole, effectivement, sous les 40 dollars ce soir, 39,80 le WTI, avec des incertitudes très fortes hein, sur la situation économique. Ça pèse lourdement sur le secteur. Vallourec repère 4%, Technip moins 3%, CGG rechute même de 6%, Total perd 0,8% ce soir, sous les 30 euros, 29,70 euros. Le rebond est aussi très limité en Europe, à Francfort, plus 0,4%, Madrid, plus 0,08%, Milan, plus 0,18%, et donc le CAC 40 en hausse de 0,62%, 4 802 points.
Merci Didier Hamo de Boursier.com et à demain.
Demain.
22h passées de 21 minutes sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Arnaud Burgot.
Bonsoir Arnaud Burgot.
Bonsoir Emmanuel.
Vous êtes le directeur général d'Ulule. Ulule, c'est l'une des principales plateformes de financement participatif en France. Si on a eu envie de vous passer un coup de fil ce soir, c'est parce que vous fêtez vos 10 ans. En ce moment même, c'est la fête chez vous, une fête qui bien évidemment respecte tous les gestes barrières. La première question va être toute simple. Est-ce que les Français ont continué à lancer des projets pendant la crise ?
Oui, alors on a observé juste au moment du confinement, les 15 premiers jours, une baisse d'activité, notamment des projets qui se sont lancés, parce qu'il y avait un effet un peu des mois de désarroi. Toute l'attention était centralisée sur ce qui se passait en termes de crise sanitaire, et notamment les créateurs ne se sentaient pas légitimes de communiquer sur leurs actions quand elles n'étaient pas directement liées au Covid. Et puis petit à petit, il y a eu la période de confinement, on a vu l'activité reprendre. Les personnes se sont remises à parler de leurs projets parce que tout un chacun s'est dit qu'il fallait quand même avancer, voilà, qu'on était dans une situation inédite, qui est plein d'incertitudes, mais que malgré tout, il fallait que les choses avancent. Et donc, on a vu au bout de 30 jours à peu près, l'activité repartir, de nouveaux projets se lancer.
Est-ce que ce sont des projets nouveaux qui arrivent ? Est-ce que ce sont des projets différents ? Est-ce qu'il y a un sens différent dans les projets entrepreneuriaux qui arrivent sur une plateforme comme Ulule ?
Alors, sur vraiment la période de confinement, on a eu énormément de projets qui étaient directement liés à la crise sanitaire, des projets de solidarité, comme par exemple les paniers solidaires qui visaient à collecter des fonds pour payer des paniers pour les soignants et pour les personnes isolées, donc des paniers de nourriture, c'était vraiment extrêmement concret. Des actions de collecte de fonds pour divers organismes de recherche, des actions, beaucoup d'actions de solidarité notamment vis-à-vis des personnes les plus fragiles. On a vu aussi beaucoup d'entreprises qui ont lancé des produits partage, c'est-à-dire qui reversaient sur les préventes qu'ils faisaient une partie des fonds collectés à de la recherche ou à d'autres actions de solidarité. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'est poursuivi à peu près de mars à juillet. Et là, on a moins de projets de ce type-là. Mais ça a renforcé une tendance qu'on voyait déjà nous, depuis de nombreuses années, c'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui se lancent via Ulule prennent en compte l'impact sociétal de leurs activités et cherchent à avoir une activité économique, faire quelque chose de viable, mais avoir en plus un impact sociétal positif.
La crise a accéléré encore cette mutation ?
Oui, je pense que ça a encore augmenté ça, notamment dans la prise en compte du Made in France et la production française. Il y a énormément de personnes qui ont conscience qu'on vit en plus d'une crise sanitaire, une énorme crise économique. Et donc, elles préfèrent choisir des choses qui sont produites à côté de chez eux, qui permettent d'irriguer le tissu local, parce que chacun d'entre nous connaît des entreprises qui sont en très grande difficulté. Donc, ça rentre vraiment dans les choix, les décisions de soutenir des projets et de préacheter via Ulule des choses qui vont se lancer et permettre à des entreprises d'exister.
Est-ce que, par ailleurs, d'ailleurs, les gens sont toujours aussi généreux ?
Alors, c'était une de nos grandes questions, notamment quand on a eu cette baisse. Et puis, en fait, en mai, juin, juillet, on a eu une augmentation par rapport à l'an dernier des fonds collectés d'environ 20%. Et quand on regarde la contribution moyenne, c'est-à-dire combien les gens donnent en moyenne, c'est un indicateur qui permet de voir un peu comment ça évolue, on est toujours à 50 euros. Donc, les gens donnent la même somme d'argent et on a plus de personnes qui sont venues contribuer. Et ça se poursuit à la rentrée. On est toujours sur une contribution moyenne à 50 euros avec des fonds collectés qui sont supérieurs à ce qu'on observait l'an dernier. Donc les Français sont généreux dans cette période.
Vous fêtez vos 10 ans, hein, c'est la fête en ce moment même du côté de chez Ulule. Votre gros concurrent est aussi français, ça s'appelle KissKissBankBank, ils ont 11 ans. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que des acteurs comme vous de la finance participative sont peut-être encore plus utile en temps de crise parce qu'on sait que les banques vont peut-être un petit peu freiner les crédits pour les projets les plus périlleux, les plus ambitieux, les plus utopistes, je ne sais pas quel mot on peut utiliser, et plus que jamais on a besoin de structures comme vous.
Oui, je pense que, alors déjà on est né en 2010, qui était juste après une crise financière majeure, et en fait on est un outil très différent des outils de financement traditionnels parce qu'effectivement on ne va pas regarder les personnes qui ont contribué à des projets et nous, équipe Ulule, on ne va pas vous poser des questions sur votre business plan et est-ce que vous visez avoir une rentabilité et des flux de trésorerie qui permettent de rembourser un prêt, parce que ce n'est pas ça la logique. Donc, ça permet à des projets qui sont atypiques, ça permet à des projets qui visent avant tout de l'impact sociétal et pas de la rentabilité de voir le jour. Et on en a besoin dans les périodes troubles de ce type-là, parce que le lien social, pour moi, et puis je pense que c'est un avis qui est partagé par beaucoup de personnes, c'est essentiel dans ces périodes-là. Et des plateformes comme les nôtres, c'est ce qu'elles permettent de faire. Voilà. Voilà. Tout un chacun peut participer à des projets qui lui tiennent à cœur et montrer qu'elle est solidaire. Et toutes ces petites pierres qui participent à créer un beau chemin, bah, elles ont en fait un effet qui est très important et très différent de ce que font les autres acteurs de la finance.
Si on se retourne un tout petit peu en arrière, quel est le projet dont vous êtes le plus fier chez Ulule? Quand entre vous, vous vous dites « Tiens, on a vraiment réussi ça », c'est quel projet qui sort?
C'est compliqué parce qu'on a des projets à la fois culturels, des projets entrepreneuriaux, des projets solidaires. Donc, on est dans un journal économique.
Oui, mais...
Donc, je vais parler d'un projet économique que j'aime vraiment beaucoup, c'est 1083, qui s'est lancé via Ulule. Donc, c'est Thomas Huriez.
Qui est une marque de jean. Et Thomas Huriez était à la mi-journée sur l'antenne d'Europe 1, justement, parce que c'est l'une des plus belles stories, on peut le dire comme ça, du monde du financement participatif.
Ouais, tout à fait. Il a lancé d'abord une gamme de jeans éco-conçus made in France à l'époque où plus personne faisait du jean en France. Et donc, il a complètement participé avec d'autres acteurs à reconstituer une filière. Et maintenant, il fait plein d'autres vêtements et il a essaimé puisque, en fait, il a permis de montrer que c'était possible. Et aujourd'hui, on voit toute une filière textile en France qui reprend vie. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui est viable, qui a créé de nombreux emplois et puis surtout qui crée beaucoup d'exemplarité positive parce que c'est quand on entreprend qu'on montre que ça peut se faire, qu'il y en a d'autres qui suivent et puis que les personnes achètent des produits comme ça. Ça permet à ces entreprises de se pérenniser et d'exister.
Eh bien, on espère qu'il y aura beaucoup de 1083 dans les années à venir grâce au financement participatif. Un grand merci à Arnaud Burgot, le directeur général d'Ulule, d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr. Restez avec nous, dans un instant on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite. Et voici donc à 22h29 ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. L'Europe cherche un terrain d'entente sur l'asile, titre La Croix. On vous en parlait dans le journal, la Commission européenne a dévoilé aujourd'hui une réforme des politiques migratoires. Un pacte sans vision, écrit Jean-Christophe Ploquin dans son édito. Son grand défaut, il n'est pas visionnaire. Les mesures prises sont réalistes, c'est une bonne chose, mais il manque à ce pacte un horizon capable de donner la mesure de la circulation des personnes dans les prochaines décennies et qui confère de l'ambition aux politiques choisies, écrit l'éditorialiste. D'ailleurs, la différence est flagrante avec la stratégie sur le climat. Dans ce domaine, l'Europe se pose avec audace en leader mondial de la transformation écologique, mais sur l'enjeu profondément humain de l'accueil des migrants dans la durée, elle s'en tient à une approche court-termiste, elle se condamne à subir, conclut Jean-Christophe Ploquin. Juliette Gréco, nous vous aimions, titre Libération qui nous a concocté une dans le journal Le Savoir-Faire. Photo splendide, on y voit la chanteuse de dos en train de zipper délicatement sa robe noire évidemment. Juliette Gréco incarnait comme nul autre artiste la culture française, écrit pour sa part Le Figaro. Plus qu'une voix, elle restera comme une figure qui ne faisait pas de compromis. L'interprète de Brel, Ferré, Béart et Gainsbourg s'est éteinte à Ramatuelle. Elle avait 93 ans. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien, comment allez-vous?
Ça va.
Bon, bah vous avez vu que l'automne est de retour. La fermeture des restaurants à partir de lundi, ici à Paris, à partir de 22h et à Marseille,
dès
où
samedi.
On nous écoute beaucoup, dès samedi complètement. Ouais. Eh bien, je vais vous dire, ça va, mais ça m'en met quand même un coup derrière les oreilles.
Oui. Comme tout le monde, je crois. Bon. Comme à tout le monde. 39-21 pour venir témoigner dans votre libre antenne, c'est nécessaire ce soir.
Exactement, 39-21 pour essayer de garder le moral. À tout à l'heure, Julien.
À tout à l'heure.